C'est quoi laver les pieds? Ben, à l'époque, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était un acte d'hospitalité. C'était un acte d'accueil. C'était un acte de politesse, finalement. Chaque fois qu'on arrivait quelque part, invité, qu'on était sali parce qu'on marchait dans des rues poussiéreuses, ben, ça faisait partie des règles de la politesse de faire laver les pieds. C'est une chose toute simple. Ce qu'on se rend compte ici aussi, et je trouve intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas lavés les pieds. Pourquoi ? Ben, si on regarde un peu le contexte, les disciples et Jésus sont venus à cet endroit-là. Ben, Jésus leur avait dit, allez en ville, trouvez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, dites-lui, j'aimerais manger la Pâque avec mes disciples, et il vous montrera une salle toute préparée. Ben, ils arrivent là, ben, visiblement, ils sont les 12. L'autre, celui le maître de la maison, n'est pas là. Donc, ben, il n'est pas là. Ben, tant pis, normalement, on se fait laver les pieds, mais s'il n'y a pas le maître de la maison qui accueille, s'il n'y a pas les serviteurs pour faire ça, ben, on y renonce. C'est pas vital, finalement. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne vient pas à l'esprit des 12 de faire cet acte. Ben, on se l'économise, quoi, j'entends, c'est pas leur rôle, c'est pas normal. Et quand Jésus le fait, ça les surprend. Ça ne correspond pas à l'image qu'ils ont de cet acte. Alors, si on réfléchit à la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce qui, dans notre époque, dans notre contexte à nous, correspond à cet acte? Alors, on peut réfléchir et puis on peut trouver des exemples. Le style classique, c'est, qu'est-ce que j'ai marqué, faire le ménage dans l'église. Mais c'est un peu faible. Je ne pense pas que Jésus va donner un message dans son testament final en disant, eh ben, nettoyez l'église. C'est plus vaste que ça, c'est plus profond que ça. Alors je me suis dit, mais quelles sont les caractéristiques vraiment de cet acte accompli par Jésus? Qu'est-ce que c'est que cet acte de laver les pieds dans cette culture? À quoi ça correspond? Alors premièrement, ce que j'ai marqué, c'est un acte habituel, un acte tout commun. C'est rien d'extraordinaire, c'est normal, c'est l'acte standard. Ça fait partie des règles de vie de base. On voit qu'ils ne l'ont pas fait, donc ça veut dire que c'est aussi un acte qui n'est pas si important que ça. On peut s'en passer, on peut manger sans avoir les pieds lavés, ça n'empêche pas de manger. Ça fait partie des règles, mais c'est un peu secondaire. Ensuite, ce qu'on se rend compte, ce n'est pas un acte gratifiant. Il n'y a aucune reconnaissance parce qu'on lave les pieds. Ça fait tellement partie de l'ordinaire qu'on ne va pas dire merci parce qu'on l'a lavé les pieds. C'est vraiment pas gratifiant de faire ça. Et les disciples, ils n'ont pas idée de le faire parce que... Non, on ne va pas s'abaisser à ça quand même. C'est secondaire. C'est un acte pour lequel il n'y a pas de reconnaissance, finalement. C'est un acte, je viens de dire, qu'on a tendance à considérer comme en dessous de sa dignité. Mais c'est quand même un acte de service utile. Ça sert à quelque chose de laver les pieds. Les gens avaient, à cette époque, les pieds poussiéreux. Les laver, ça, c'était pas quelque chose de formel. Non, ça rendait un vrai service. Pas vital, mais ça rendait un service. Ça avait du sens. C'est un acte qui a du sens, quand même. Et puis, finalement... C'est un acte de respect vis-à-vis des autres. On invite, eh bien, on les sert. C'est un acte de respect. Donc, un acte ordinaire de respect, mais un acte qui est normal. Et dans nos vies, c'est plein d'actes comme ça. Il y a plein d'actes quotidiens dans notre famille, dans notre travail. Alors, on parlait de ranger l'église, disons, dans l'église, mais partout, à longueur de journée, on fait des actes où on réfléchit à peine de leur valeur, à quoi ils servent. C'est normal. Et puis, souvent, ben, comme les disciples, cet acte normal, on ne va même pas le faire. C'est tellement automatique. Et puis, c'est tellement secondaire, souvent. Est-ce qu'on va le faire? Et cependant, Jésus nous invite à l'imiter. Il nous invite à faire ça. Et le faire ça consciemment. Vous voyez, c'est un choix qu'a pris Jésus de faire ça. imiter Jésus, là, et dans tout le reste du discours, ben, il va continuer à nous parler, Jésus, de comment être disciple, que faire, comment agir, comment vivre. Un peu plus loin, par exemple, il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà à quoi on est appelé, à aimer jusqu'à donner notre vie. Mais on est aussi appelé à cette espèce d'acte ordinaire qui, dans ce contexte, est simplement laver les pieds des disciples. Aimer, ce n'est pas seulement extrême. Aimer, ça commence par des choses qui sont toutes petites, de l'ordinaire. Et pourquoi ? Je me suis dit, mais une chose, c'est peut-être qu'il faut commencer petit pour apprendre et arriver à des choses plus grandes. C'est certainement vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. Pour donner sa vie pour ses amis, eh bien, il faut vraiment avoir un cœur transformé. Il faut vraiment avoir quelque chose. Jésus qui donne sa vie pour des pécheurs, ce n'est pas du tout naturel. Il y a besoin d'une nouvelle naissance, il y a besoin de quelque chose de très particulier pour pouvoir donner sa vie pour ses amis. Ce n'est pas du tout naturel. C'est possible, hein, ce n'est pas une chose impossible, mais ce n'est pas du tout naturel. Mais c'est la même chose pour ces choses toutes simples. Elles ne sont pas du tout naturelles. Il y a quelque chose en nous qui les refuse. Ce n'est pas plus naturel de se, vraiment, dans la pensée de Dieu, de se laver les pieds, entre guillemets, que de donner sa vie pour ses amis, ou même d'aimer ses ennemis. C'est des choses là, on réalise, elles sont impossibles. Elles sont... Mais les choses ordinaires sont tout aussi impossibles à faire comme Dieu veut qu'on les fasse. Je vous dis, ce n'est pas naturel, parce que qu'est-ce qui est naturel dans ce genre de choses? Dans ces petites corvées, ces choses qui arrivent dans notre vie, quelle est notre réaction naturelle? Alors, on avait été invité l'autre jour chez des gens qui ont des enfants, et on leur disait, allez, débarrassez la table, faites ça. Et c'est quand même assez frappant de voir la discussion entre les enfants pour que ce soit l'autre qui aille débarrasser la table. On s'est rendu compte, naturellement, ce genre de choses, on n'a pas envie de les faire. Et alors, quand on a 15 ans, ça se remarque. Quand on a notre âge, ça se remarque peut-être moins. Mais cette réaction profonde, elle existe, elle est naturelle. Je me rappelle, en tout cas, moi, je suis très doué pour reporter à plus tard les choses qui ne sont pas indispensables, qui ne sont pas là, les petits services, les petites choses. En tout cas, pour moi, la manière naturelle, c'est de les remettre à plus tard ou à me trouver des excuses pour ne pas les faire. J'ai quelque chose de plus important à faire. Ça, c'est vraiment notre réaction à tous, je pense, face à ces choses qui ne sont pas gratifiantes, un peu de routine. Et puis dans les choix de ce qu'on fait, souvent, on va choisir les choses en fonction de l'avantage que ça nous apporte plutôt que, je dirais, du bien de l'autre finalement. Laver les pieds, ça servait à quelque chose. Mais entre une chose qui me gratifie, mais je dirais même servir Dieu, penser servir Dieu, va peut-être faire passer certaines choses au second plan. On met des échelles. Et pourtant, Jésus nous dit, ces petites choses, elles sont fondamentales. Si vous voulez être mon disciple, si vous voulez m'imiter, eh bien, imitez-moi à ce niveau-là aussi. Je vous ai donné cette liste pas tellement pour nous culpabiliser face à cette réalité-là, mais nous faire prendre conscience de cette réalité. Il y a 2 mois, je crois que un mois et demi, j'avais prêché sur être pauvre en esprit. On est pauvre en esprit. On a une absence de force. On a cette réalité-là qui existe. Et puis même avec la vie nouvelle, ces réalités continuent de nous... Ouais, de nous... Ces comportements, ils sont profondément ancrés dans notre vie. Une question que je me suis posée, c'est pourquoi Jésus commence vraiment par ce point-là? Je me suis dit, mais en fait, Jésus, il parle de ça parce que c'est aussi le quotidien. C'est rare de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que je vais être capable, parce que j'ai la vie de Dieu, de donner ma vie pour mes amis? Eh bien, il n'y a personne parmi nous, je pense, qui a fait cette expérience et puis qui peut dire, j'ai la vie de Dieu parce que je donne ma vie pour mes amis. Par contre, ces choses quotidiennes, eh bien, elles sont là. Elles nous permettent de nous positionner, d'y réfléchir, de penser à ce qu'on est. On se frotte tous les jours à ces réalités, à nos contacts mutuels. Eh bien, Jésus veut attirer notre attention sur le fait que ça, c'est important. Ça, c'est de là qu'on manifeste qu'on est son disciple. On peut le manifester en donnant sa vie pour ses amis, mais ça risque de ne jamais arriver. Par contre, là, tous les jours, on a à manifester qu'on est des disciples, d'une certaine manière. Une autre question que je me suis posée, mais pourquoi ça, c'est tellement important, finalement? Pourquoi faire ces actes de laver les pieds a cette importance? Parce que ça manifeste quelque chose qui est dans le cœur. Pour pouvoir agir de cette manière, comme Jésus l'a fait, ben ça montre une profonde humilité. C'est des actes humbles, pas gratifiants, de service sur lequel on n'aura aucune reconnaissance, eh bien, ça montre un caractère profond qui est celui de Jésus et celui qui veut qu'on imite, c'est l'humilité. Mais ça démontre aussi un autre caractère, pas seulement l'humilité, mais la liberté. Jésus, il fait ça facilement, naturellement. Les disciples font ça, ah non, quand même, c'est pas nécessaire. Mais Jésus, il a la liberté, la possibilité de faire ça, je dirais, facilement, sans problème, c'est naturel. Il a cette liberté. Et je pense que ces deux choses sont profondément liées. L'humilité et la liberté. Sans humilité, on va toujours calculer, mesurer. L'humilité, c'est d'avoir la capacité de voir l'autre différemment, c'est la capacité de ne pas regarder à soi, et ça donne un espace de liberté pour servir, de liberté pour aimer, qu'on n'a pas autrement. L'humilité, le sentiment que Dieu peut mettre dans notre cœur, être humble, et c'est un vrai miracle, et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, eh bien, c'est, je crois, probablement le premier point, la base d'attitude pour être vraiment libre. Sans humilité, il n'y a pas de liberté. On va être coincé pour chercher certaines choses. On n'aura pas cette capacité, cette liberté qui est brillante chez Jésus et qui veut qu'on imite. Donc ces petits points-là, en fait, ils reflètent et ils sont témoignages de la réalité de nos cœurs. Je disais que ces passages, ce que je vous dis là, cette liste et tout cela, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour nous encourager. Et ce passage, franchement, il est encourageant. Pourquoi? Parce que si on est pauvre en esprit, si on est comme ça biaisé dans nos réactions, comment entrer dans ces réalités? Je vous dis, ce n'est pas facile de trouver des exemples concrets de ça, parce que ça nous échappe, parce que il y a quelque chose en nous qui est profondément opposé à ça, et c'est difficile de saisir vraiment ce que c'est l'humilité, par exemple. Mais Jésus, il a choisi cet acte de laver les pieds des disciples. C'est un exemple, je vous l'ai bien dit, mais c'est un exemple qui a du sens. Laver les pieds des disciples, c'est aussi comme une parabole. Ça dit quelque chose. Et le passage le montre clairement. Je vous relis depuis le verset 6. Jésus arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Il fait une distinction entre se baigner et se laver. Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, c'est bien une image. L'image d'être baigné, d'être entièrement pur, alors que Judas, lui, il ne l'est pas, tandis que les autres disciples, oui. C'est clair, c'est une image de la nouvelle naissance, de la nouvelle création, de ce que le baptême implique aussi. C'est ce renouvellement complet. On est les enfants de Dieu et on a cette capacité. L'œuvre de la croix nous a sanctifiés, nous a rendus purs, parfaits. Il n'y a plus d'ambiguïté. Il y a un côté où c'est fini, tout est accompli. Mais on est faible en esprit. Mais ces mouvements du cœur, cette liste que je vous ai donnée tout à l'heure, elle existe. Même si je suis sanctifié, parfait, assis dans les lieux célestes, ben je suis aussi sur la terre, j'ai aussi cette humanité pécheresse qui demeure et qui est là. Est-ce que Jésus dit, c'est verset 8, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Avoir part, avoir communion avec Jésus, avoir participation à son œuvre, à ce qu'il fait, participation, témoignage, enfin, en résumé, être disciple, eh bien, c'est pas possible si je ne te lave pas, dit Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, laver pour Jésus ? Je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop ce que ça signifie, se laver les pieds, mais dans ce sens un peu symbolique, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous lave pour avoir part avec lui ? Bien, ce passage y répond à cette question, d'une façon un peu indirecte, mais j'ai trouvé à la limite merveilleuse. Je trouve que c'est une des manières dont la Bible parle. Il ne faut pas lire que juste ce passage-là, mais c'est un contexte, il y a tout un récit qui donne une bonne illustration de ce que c'est pour Jésus que de nous laver. Au verset 7, il était dit, Jésus répondit à Pierre et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Qu'est-ce que ça veut dire, tu le comprendras par la suite ? Quand c'est que Pierre a compris ce que c'est que finalement cet acte de Jésus, au sens spirituel du terme, quand il l'a compris? Et il y a 15 jours ou 3 semaines, c'est Liliane qui avait parlé de ce passage de Jean 21 où Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu ?» 3 fois de suite, « M'aimes-tu ?» Jésus travaille pour libérer Pierre de cette culpabilité de l'avoir renié, de s'être vraiment planté, d'avoir été totalement à côté, de s'être laissé prendre par, justement par ses réactions naturelles de crainte, de fuir les difficultés, toute cette nature humaine qui est là. Eh bien, Jésus prend soin pour que ça n'écrase pas Pierre. Il a suivi et il s'occupe de Pierre pour qu'il ne reste pas arrêté, écrasé par, Et il n'y a pas que dans Jean 21, dans ce dialogue. On peut aussi lire dans Luc 22, verset 59, c'est justement la scène où Jésus est, je crois, le souverain sacrificateur, et puis Pierre est là, il se chauffe au coin du feu. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Jésus a pris soin de l'avertir, de dire, le coq chantera, il l'a averti pour que quand ça arrive, Pierre réalise les choses. Et puis regardez, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Un regard de Jésus vers Pierre. Il le regarde, il l'avertit, et puis ensuite, il le restaure, il s'occupe de lui, m'aimes-tu, paie mes brebis. Voyez tous ces récits-là. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire dans nos vies. Il ne veut pas que nous soyons écrasés par la culpabilité. Il ne veut pas que ces manquements qu'on fait, cette faiblesse face à des choses qui nous semblent tellement secondaires qu'elles nous échappent, qui nous salissent, qui sont finalement des manifestations de la chair et qui sont vraiment beaucoup plus néfastes qu'on le pense, et en tout cas dans notre témoignage, mais même pour des vies qui ont du sens, ces choses-là sont extrêmement néfastes. Mais Jésus ne veut pas que ce soit un poids, quelque chose qui nous écrase. Et il nous lave. Nous laver, c'est nous débarrasser de tout ce poids de ce monde, de ce qui nous arrive, des choses difficiles, mais surtout des culpabilités qui sont là, du poids que toute la vie pose sur nous. Jésus veut nous en laver. Et on en a bien besoin, parce que bien souvent, franchement, pour reprendre cette expression, je ne lave pas les pieds de mon prochain. Trop souvent, on passe à côté. Mais Jésus, lui, il continue de me laver les pieds. Il s'occupe de ça. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que dans ce que Pierre a vécu, où le Seigneur le regarde, où le Seigneur fait chanter un coq, bien juste avant dans ce passage, il est dit, Luc 22, verset 31, « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermi tes frères. » Toute cette action de Jésus, elle fait partie de son intercession, du fait qu'il prie pour nous. Parce que la prière de Jésus, ce n'est pas juste des mots. La prière de Jésus, c'est une action. La prière de Jésus, l'intercession de Jésus, c'est sa personne tout entière qui est en route pour nous laver, pour nettoyer tout ce qui nous salit, pour relever tout ce qui nous abaisse et nous pèse souvent. Et il le fait, il intercède pour nous. Qu'est-ce que j'ai marqué ? L'avertissement. Chaque fois que Jésus nous avertit, nous fait prendre conscience, ça fait partie de son intercession, de ce qu'il fait pour nous laver. Un regard de tristesse. Chaque fois que notre conscience nous reproche quelque chose, c'est aussi une manière pour Jésus de nous regarder et de nous faire prendre conscience de la chose. Rétablissement de relations. Jésus travaille pour justement nettoyer ça pour qu'on puisse revenir vers lui. Et il le fait explicitement, il le fait constamment. On a besoin de Jésus, on a besoin de son intercession, on a besoin de son intervention constante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il le fait. N'ayons pas peur, jamais il ne manque. on peut progresser parce que Jésus agit. Il est dit en Hébreux 7, verset 25, « Par conséquent, Jésus peut aussi sauver parfaitement ou jusqu'au bout ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Toujours vivant pour intercéder. Il ne cesse pas ce travail pour nous porter dans la vie ordinaire, dans tout ce monde dans lequel on vacille, on patauge un peu. Eh bien, il y a constamment cette intervention de Jésus. Il est toujours vivant pour sauver jusqu'au bout. Et comment il le fait? Face à nos péchés, à nos faiblesses, nos erreurs, notre aveuglement, face à nos non, nos obstinations, face à notre paresse aussi, face à toutes ces choses, Jésus ne nous condamne pas. Jamais Jésus n'a un regard de condamnation. Il ne se lasse pas, il intervient toujours, il revient. Quoi qu'il advienne, finalement, si on est ses enfants, si on a été lavé, si on est à lui, on ne peut pas dire, me semble-t-il, que Jésus soit vraiment en colère contre moi quand je manque. Il n'est pas en colère. Je dirais, il est plutôt triste, triste et compatissant, rempli de compassion. Il sait que nous sommes pauvres en esprit. Il sait que nous sommes plongés dans un monde difficile. Il y est venu, il y a vécu. Hein. Je vois plutôt un cœur de compassion, de tristesse. Mais, vraiment tristesse, il y a un verset qui m'a frappé, c'est toujours dans Luc, mais chapitre 15. Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Nos faiblesses, ça peut attrister Jésus, mais il travaille pour qu'on se repente, pour qu'on change, pour qu'on progresse. Et ça, pour lui, c'est une des plus grandes joies qu'il connaisse. Donc, à la limite, parler de tristesse, je pense qu'on peut le dire, mais derrière cette tristesse, il y a la joie. Il travaille pour qu'on change, et on va changer parce que ce que fait Jésus est efficace. Chaque petit progrès qu'on fait dans nos vies, eh bien, c'est de la joie dans le ciel. Pas voir les choses trop négativement. Si Dieu a permis que ce soit difficile de vivre, c'est pas pour que ce soit lourd pour nous ou pour lui. Le but, il est heureux. Et sentir l'approbation de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, bien Pierre, après avoir entendu « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu », ça l'a touché. Mais ensuite, « Paix mes brebis ». Et dans toute sa vie, ensuite, Pierre a été reconnaissant. Il a marché dans l'énergie, dans la joie de ce qu'il a vécu là, parce qu'il a connu vraiment... Voilà comment est Dieu, voilà comment est Jésus. Jésus se réjouit de pardonner. Il est triste de nos chutes, mais il se réjouit. C'est une joie pour Jésus de pardonner. C'est le but de tout ce qu'il a accompli. Je vais terminer avec Hébreux 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Là, nous n'approchons pas de Jésus pour l'apaiser avec le sentiment qu'il est fâché, qu'il est en colère. On s'approche de quelqu'un qui compatit. On s'approche de quelqu'un qui a compassion de nous. On s'approche de quelqu'un vers lequel on peut trouver grâce. On vient vers lui, pas pour entendre des reproches, mais pour trouver grâce. Et cela, pourquoi ? Parce qu'il est capable de compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous. Et c'est là qu'on rejoint un peu Noël. Si Jésus est devenu comme un petit enfant, s'il est venu vivre dans ce monde, s'il est venu connaître ce qu'il a connu dans son humanité, eh bien c'est pour pouvoir s'associer à nous, c'est pour pouvoir comprendre, c'est pour pouvoir compatir, c'est pour pouvoir aimer, pour pouvoir nous porter, pour pouvoir nous aider à grandir, pour nous permettre de nous repentir, pour créer cette joie dans le ciel vers des hommes et des femmes qui, dans leur faiblesse, se tournent vers lui et s'attendent à lui. Et c'est possible, mais c'est possible uniquement parce que Jésus intercède pour nous, parce qu'il est actif pour nous. Sans son intercession, sans son œuvre, sans ce qu'il fait tous les jours dans nos vies, on se planterait immédiatement, on tomberait. Mais il veut nous sauver jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement. Et entre autres, dans ces toutes petites choses, je reviens à ça pour pas qu'on oublie, c'est dans les petites choses, dans les choses du quotidien que ça se passe. Ne croyons pas que c'est dans les grandes choses. Et soyons attentifs au fait que ce travail de Jésus, il se passe dans notre quotidien, dans des toutes petites choses, dans des relations. Laver les pieds, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait trop. Mais il y a l'intercession, le travail de Jésus qui nous permet d'entrer là-dedans sans même tellement souvent nous en rendre compte. Jésus nous rencontre dans l'ordinaire et il intercède. Et pour terminer, je ne vais pas prier, on ne va pas faire des petits groupes, mais j'aimerais simplement vous demander d'avoir un moment d'écoute, d'attention. Pour ceux qui sont online, ils peuvent aussi arrêter maintenant, mais avoir ce petit moment, quelques minutes, où on se place individuellement, chacun devant Dieu, avec cette question, cette réflexion. Comment dire ça ? Que le Saint-Esprit nous montre comment, maintenant, Jésus est en train d'intercéder pour moi. Quel est le point ? Qu'est-ce que vous pensez que Jésus est en train de penser, de travailler, de vouloir toucher chez vous ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Quel est le point où maintenant, aujourd'hui, à ce moment, il essaye de vous nettoyer, il essaye de vous encourager, il est à l'œuvre pour vous. Saint-Esprit, je te prie que ce soit une réalité, que tu nous montres vraiment, tu nous donnes une idée de ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant. Quel est son intérêt, son intercession, son action maintenant pour nous ? Dans quel point, comment ? Seigneur, dirige-nous et donne-nous pour cela des cœurs reconnaissants. Tu ne fais pas de reproches, tu travailles pour nous. Et ce que tu fais maintenant, ben c'est quelque chose pour lequel on peut te dire merci. Eh bien, apprends-nous à te dire merci. Habite ces moments, s'il te plaît. Amen. 3-4 minutes, et puis après, je terminerai par une prière. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui parle. En tout cas, tu m'as parlé et ça m'a surpris, Seigneur. Mais merci de t'occuper de nous, de chacun de nous. Et Seigneur, ça nous conduit à prier aussi pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont dans des moments difficiles, des moments durs de la vie, où il y a pas, on n'a peut-être pas besoin d'être repris ou encouragé, mais on a besoin d'être porté. Pense à Roger, à Ilse et à d'autres, Seigneur, qui sont dans des situations difficiles. Tu vois des choses sur la durée. On pense à Roland, pense à Denise aussi, ou à Adelise. Et puis on peut multiplier, Seigneur. Et merci parce que tu es là et tu veux nous porter et nous parler et nous encourager. Tu as des buts pour nous. Et on peut que te remercier parce que tu es Seigneur Jésus, ce Dieu bon et compatissant, qui veut que notre bien et qui ne fait que des choses pour notre bien, le bien de tes enfants. Seigneur, révèle-toi toujours plus profondément à nous comme ce Dieu aimant. Tu es pour nous. Merci Seigneur. Amen.